Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio Republik Indonesia, Service Internasional, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Présent dans la cérémonie du prix d'UNESCO Guillermo Cano, le président Joko Widodo souligne le rôle des médias pour garder la comptabilité du gouvernement. L'Indonésie a réussi à unir la démocratie, l'autonomie et la liberté de la presse. Le Conseil de la presse garantit la liberté de la presse qui obéit au code d'éthique journalistique. Les journalistes dans le monde doivent maintenir la solidarité afin d'être protégés contre la violence. L'Union européenne tient des événements culturels et se félicite de la journée européenne. Et enfin, Irina Bokova a ouvert Guillermo Cano World Press Freedom Award. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo apprécie l'importance du rôle des médias et des journalistes dans le développement de l'Indonésie. Il a souligné le rôle joué par les journalistes dans la surveillance du développement de la nation indonésienne depuis la crise financière qui a secoué l'Asie en 1997. Dans son discours à la décernation du prix d'UNESCO au Guillermo Cano, mercredi à Jakarta, le président Joko Widodo a dit que la presse et les médias ont un rôle important dans le maintien du développement d'État vers le gouvernement responsable, en particulier dans la guerre contre la corruption. Selon lui, la presse et les médias ont fait de la démocratie en Indonésie pour être plus dynamique qu'auparavant.
Since the era of reformasi in the late 1990s, a free and energetic press.
Depuis l'ère de la réforme à la fin des années 1990, la présence de la presse énergétique et libre a joué un rôle important pour garder le gouvernement responsable, ouvert et lutter contre la corruption et la presse nous garde de divertir. La démocratie est une chose dynamique et les amis des médias ont rendu la démocratie qui est plus dynamique. Le président Joko Widodo a déclaré « L'Indonésie avait souffert d'une situation grave lorsque les chocs de la crise économique en 1997. Mais, selon lui, cette époque est une période de veiller l'Indonésie à l'Indonésie forte et dynamique. » Selon lui, cela a été montré par l'adoption de la démocratie dans le pays, les économies axées sur le marché et la liberté politique, la liberté d'expression et de la presse. Le président Joko Widodo a ajouté qu'actuellement, l'économie indonésienne a développé plus de 300% par rapport à l'économie à la fin de l'année 90. L'Indonésie avait réussi à passer 4 changements de présidence au cours de 20 dernières années. L'Indonésie était devenue l'un des pays avec l'optimisme élevé dans le monde. Le vice-président Yusuf Kalla a ouvert la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 tenue à Jakarta du 1er au 4 mai 2017. Le mercredi 3 mai à Jakarta Convention Center, dans son discours, Yusuf Kalla a dit que l'Indonésie a remercié d'avoir été choisie pour accueillir la Journée mondiale de la liberté de presse. Cela renforce la position et la voix de l'Indonésie concernant la nécessité d'un État pour sauvegarder la liberté de la presse étant responsable pour le progrès de l'État. Au cours des 20 dernières années, les médias indonésiens ont beaucoup de supervision et provision. 98 ans après la réforme, la presse indonésienne a changé drastiquement de sorte que l'Indonésie devient un pays où la liberté de la presse est très appréciée. Selon Yusuf Kala, à l'ère de la démocratie, il y a trois choses qui ont vraiment changé l'Indonésie, à savoir la démocratie, le système d'autonomie et la liberté de la presse.
Memang banyak mempertanyakan bagaimana Indonesia, di mana Indonesia dan negara.
Beaucoup de questions. Comment l'Indonésie, en tant qu'un pays à majorité musulmane, peut unifier trois choses simultanément, telles que la démocratie, l'autonomie et la liberté de la presse en même temps? Selon Yusuf Kala, la liberté de la presse en Indonésie est très fondamentale. Elle est protégée par la Constitution des droits de l'homme liée au droit d'exprimer des opinions. En outre, afin de publier en médias, maintenant on n'a pas besoin beaucoup de temps pour obtenir des permis. Par conséquent, actuellement il y a 2000 de la presse écrite, 1100 radios, 394 télévisions nationales et locales et 34 000 médias en ligne. C'est une expression de la liberté de la presse efficace. Néanmoins, la presse a une responsabilité à l'éthique et des règles internes de leurs médias respectifs. Yusuf Kala a dit, les médias doivent mener à la paix et non de conflit ou d'injustice. Le Conseil de presse est une institution pour protéger les médias d'avoir la liberté d'expression qui obéit au code d'éthique journalistique. C'est ce qu'a déclaré Imam Wahyudi, membre du Conseil de la presse, lors d'une conférence de presse tenue mardi le 2 mai dans une série d'événements de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta. Imam Wahyudi a expliqué le droit de garantir la protection de la liberté des médias qui est conforme au code d'éthique du journaliste, mais qui est souvent administrativement compliqué, même criminalisé, pour l'intérêt de certaines parties.
Kemudian di sini ada kontennya positif, taat pada.
Ensuite, il y a un contenu positif, obéit au code d'éthique, mais les conditions administratives n'ont pas été remplies. Dans ce contexte, le Conseil de presse ne fait pas d'attention. Le Conseil de la presse tentera de faire la médiation, y compris en communiquant avec la police pour éviter la criminalisation. Il a été déclaré par Imam Wahyudi répondant aux contraintes rencontrées par les médias dans la distribution d'informations qui se produisent souvent dans l'équipe des médias. Ces cas sont devenus l'objet principal du Conseil de la presse pour lutter la liberté de la presse en Indonésie. Imam a également souligné que le devoir du Conseil de la presse est de maintenir la liberté de la presse, de ne pas maintenir la presse, de sorte que enfin, cette liberté puisse être bénéfique pour le public et ne sera pas abusée librement. Les journalistes deviennent la ligne de front dans la production de nouvelles pour les médias, mais ils ont besoin de protection. Concernant cette question, le vice-président de l'Alliance des journalistes au Timor-Leste, Zevonia Vieira, a déclaré mardi à la Voix d'Indonésie, en marge de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Jakarta, que tous les membres de la presse dans le monde devraient maintenir l'unité et la solidarité de sorte que la protection des journalistes peut être améliorée.
Kita semua wartawan di seluruh dunia saling memberi solidaritas terhadap teman-teman kita yang di negara manapun. Mungkin di sini di Indonesia yang masih dapat kerasa.
Les journalistes dans le monde entier donnent la solidarité à nos amis dans tous les pays. Peut-être en Indonésie, il y a encore la violence. Nous devons nous unir pour donner la solidarité à eux en criant toujours d'arrêter la violence. Pour tous les pays et tous les dirigeants, ils doivent respecter le travail des journalistes seulement avec un article qu'ils pourraient apporter des changements et utiles pour les pays et pour le peuple. Zevonia Vieira a également demandé aux médias dans le monde de rester indépendants et peut également maintenir la neutralité qui ne se concentre pas sur les intérêts de l'organisation ou d'un groupe. Sinon, les médias ne sont plus confiance par le public. Elle souhaite que les médias dans le monde puissent contribuer à la paix mondiale via les nouvelles. Commémorant la Journée européenne le 9 mai, les représentants de l'Union européenne en Indonésie organisent une série d'activités culturelles pendant un mois dans plusieurs villes en Indonésie. Selon a été annoncé par l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérang, lors d'une conférence de presse à Jakarta mardi. Ses activités comprennent la course à pied, le festival de cinéma européen, les concerts de piano, les concerts de musique de jazz, les ateliers et les conférences d'affaires. Cette série d'activités reflète la relation étroite entre l'Indonésie et l'Union européenne.
And finally, I just wanted to stress how much these various cultural events fit very well with our overall relations.
Enfin, j'ai souligné que toutes ces activités étaient très compatibles avec les relations entre l'Indonésie et l'Union européenne. Nous avons des relations très fortes et confiantes dans le domaine politique, un dialogue de confiance à tous les niveaux, y compris le niveau du président. Nous avons également évidemment des relations économiques très fortes entre l'Indonésie et l'Europe. L'ambassadeur Vincent Guérang a ajouté que l'investissement de l'Union européenne en Indonésie avait créé un emploi pour 1,1 million de personnes. En outre, dans le domaine de l'éducation, depuis 2004, 1200 étudiants indonésiens ont reçu des bourses d'études en Europe. Pendant ce temps, environ 100 étudiants européens reçoivent chaque année une invitation à étudier en Indonésie. Cette année, le 3 mai, l'Indonésie a accueilli la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. Comme les années précédentes, l'une des activités dans la Journée mondiale de la liberté de presse est la cérémonie de remise du prix mondial de la liberté de la presse d'UNESCO au Guillermo Cano. C'est le prix pour les journalistes qui continuent de lutter pour la liberté d'expression de la presse. La remise du prix d'UNESCO au Guillermo Cano de la liberté de la presse cette année a eu lieu à Jakarta Convention Center, Senayan, et a été ouverte par le directeur général de l'UNESCO, Iriana Bokova. Dans son discours d'ouverture, elle a déclaré que le prix était le reflet du courage des journalistes de lutter contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Nous, où l'UNESCO a travaillé avec un seul objectif, mettre fin à la violence, assurer la justice, défendre la liberté d'expression et respecter la vérité. Donc, dans cet esprit, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous rendons hommage à quelqu'un avec le courage de toujours lutter pour réaliser la liberté d'expression et la liberté de la presse. Dans son discours, Iriana Bokova a également lu une brève biographie d'Awit Isaak, un journaliste suédoise qui a reçu le prix mondial de la liberté de la presse d'UNESCO au Guillermo Cano 2017. Ce prix a été remis à la fille de David Isaak, Bethlehem Isaak, qui représente l'absence de David dans cet événement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre « La journée mondiale de la liberté de la presse ». Le 3 mai 2017, la communauté internationale a commémoré la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette année, le pic de l'anniversaire a eu lieu en Indonésie. Diverses activités menées avant le jour qui favorisent essentiellement l'importance de la liberté de la presse pour progresser en monde pacifique, encourager la sensibilisation des parties prenantes, exprimer la protection des médias et rappeler les journalistes qui sont morts en service. Pour l'Indonésie, en tant que l'hôte du pic de l'anniversaire, la Journée mondiale de la liberté de la presse est un moment très approprié pour évaluer la performance et le rôle de la presse dans l'accélération du développement de la nation. En outre, à présent est le bon moment pour embrasser ensemble pour faire face au canular. Certes, la liberté de la presse est une puissante arme de la presse pour jouer pleinement son rôle. L'une de ses fonctions est de transmettre les critiques sociales dans tous les aspects de la vie communautaire. La presse devrait améliorer la capacité de la communauté et donner des jugements équitables sur toutes les choses liées à la vie humaine. Surtout dans la démocratie, les gens sont les véritables dirigeants. Bien que la presse soit habituellement critiquée, en particulier dans l'ère de l'industrie de la presse aujourd'hui, les principes de la presse indépendante, neutre, équilibrée et impartiaux sont dans une certaine mesure considérés par certains groupes comme infiltrés avec des intérêts politiques de certains groupes ou les capitalistes. La véritable liberté de la presse est pour atteindre des objectifs qui profitent à la communauté dans son ensemble peut être très dangereuse si elle a été manipulée avec un programme partiel. Avec son parcours assez long, de plus, la liberté de la presse a été soutenue par la plupart des pays dans le monde. On s'attend à ce que la presse montre ses avantages à la fois pour le progrès de chaque pays ou pour un caractère universel pour les intérêts communs de la communauté mondiale. Pour contrer le phénomène actuel de la communauté mondiale, tel que les canulars, la presse devrait être plus proactive pour produire des nouvelles ou des informations constructives. La presse ne devrait pas abandonner ses responsabilités en traitant des problèmes uniquement aux dirigeants ou aux organismes d'application de la loi. Même, la presse peut être dissoute pour participer à l'esprit de liberté sans être responsable. À travers la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, tous les médias et la communauté mondiale devraient coopérer conjointement pour lutter contre les canulars. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec Nazi a été dissous. Le 4 mai 1945, le Parti Socialiste Nationaliste de l'Allemagne, ou Nazi, a été officiellement dissous. Le parti est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1932 et mis en œuvre une dictature et d'abus au sein du gouvernement. Le précurseur du parti nazi était le Parti des travailleurs allemands. Peu de temps après Hitler a rejoint le parti, en octobre 1920, le parti a changé son nom pour le Parti nazi. En peu de temps, en 1921, Hitler a réussi à prendre la direction du parti nazi en raison de la capacité d'un grand discours. Dans un délai de 3 ans, Hitler a réussi à attirer des membres de moins de 6 millions de personnes en soulevant des questions hyperinflation. Souffert, l'Allemagne est le sort de la classe ouvrière. Après la défaite de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale, le parti nazi a été dissous et a été déclaré une organisation interdite. L'autre information est sur la Journée internationale des pompiers. Précédemment, le lieutenant bénévole et un pompier à Victoria en Australie, W.J. Edmondson, a proposé à la mémoire de 4 pompiers tragiques en essayant d'éteindre un grand incendie à Linton, l'Australie, le 2 décembre 1998. La proposition d'acquérir le symbole internationalement reconnu envoyé par courrier électronique au monde entier le 4 janvier 1999. Après avoir reçu la contribution de nombreuses personnes dans le monde, a finalement été élu le 4 mai comme Journée internationale des incendies. Aujourd'hui, est le temps pour les citoyens du monde pour récompenser le sacrifice des pompiers qui avaient contribué à sauver les gens et l'environnement. Dans ces jours, habituellement attribué à un ancien pompier qui a contribué à la société. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec le séisme et le tsunami aux îles de Banggai. Les tremblements de terre sont une série de tremblements de terre qui ont eu lieu au large des côtes des îles Banggai, Sulawesi centrale, Indonésie. Le tremblement de terre a eu lieu le 4 mai 2000 avec une force de 6,5 sur l'échelle de Richter. Le séisme a tué au moins 54 personnes et endommagé au moins 23 000 maisons, suivi le tsunami avec des hauteurs de vagues estimées jusqu'à 3 mètres. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous. Radio République Indonésie, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel de titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Merci d'être fidèle à notre antenne, La Voix de l'Indonésie, diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici la mise au point, intitulée « Les normes des fonctionnaires des pays membres de l'ASEAN seront uniformes ». Les pays membres de l'ASEAN vont assimiler le standard de compétences et la pratique bureaucratique des fonctionnaires. Ceci vise à réaliser les visions de la sécurité économique et socioculturelle de l'ASEAN. Comme affirmé le directeur général de la coopération de l'ASEAN, du ministère indonésien des Affaires étrangères, José Tavares, aux journalistes récemment. Selon José, les chefs d'État des pays membres de l'ASEAN font signer une déclaration sur l'importance du service public pour réaliser les visions de l'ASEAN en 2020. La bureaucratie est un problème majeur qui entrave l'accélération de la croissance économique pour les pays d'Asie du Sud-Est. Selon le rapport sur la compétitivité mondiale de l'année dernière, c'est seulement Singapour qui est évalué comme ayant des fonctionnaires qui répondent aux besoins des citoyens et des entreprises. José Tavares a ajouté, l'inefficacité bureaucratique du gouvernement malais, le pays étant relatif avancé par rapport aux autres pays membres de l'ASEAN, se classe même troisième dans le plus grand facteur inhibition du monde d'affaires. Le même composant devient le deuxième plus grand problème pour l'Indonésie après la corruption. Cependant, le directeur de la coopération socioculturelle de l'ASEAN du ministère des Affaires étrangères, George Lantu, a déclaré que cette question aurait un impact non seulement pour les affaires nationales. L'écart dans la qualité des services publics parmi les pays d'Asie du Sud-Est entraverait le rêve d'intégrer l'économie de la région, comme par exemple les activités d'import-export parmi les pays membres de l'ASEAN avec les pratiques douanières différentes freineront le rythme des échanges économiques. En réponse à ce cas, José Tavares a expliqué que l'ASEAN face à ces problèmes en lançant des étapes vers l'égalisation des normes de qualité de services publics avec le mécanisme d'échange d'idées et le renforcement des capacités au niveau régional. Dans la même occasion, Singapour étant évalué avancé dans la vitesse de traitement des douanes, comme par exemple, enseignerait les autres pays sur les pratiques que la FED, et aussi bien que l'Indonésie, qui est considérée comme tout à fait bon pour la transparence. Chers amis, c'était la mise au point de La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Le président Joko Widodo apprécie l'importance du rôle des médias et des journalistes dans le développement de l'Indonésie. Il a souligné le rôle joué par les journalistes dans la surveillance du développement de la nation indonésienne depuis la crise financière qui a secoué l'ASEAN en 1997. Dans son discours à la décernation du prix d'UNESCO au Guillermo Cano, mercredi à Jakarta, le président Joko Widodo a dit que la presse et les médias ont un rôle important dans le maintien du développement d'État vers le gouvernement responsable, en particulier dans la guerre contre la corruption. Selon lui, la presse et les médias ont fait de la démocratie en Indonésie pour être plus dynamique qu'auparavant.
Since the era of reformasi in the late 1990s, a free and
depuis l'ère de la réforme, à la fin des années 1990, la présence de la presse énergétique et libre a joué un rôle important pour garder le gouvernement responsable, ouverte et lutter contre la corruption et la presse nous garde de divertir. La démocratie est une chose dynamique et les amis des médias ont rendu la démocratie qui est plus dynamique. Le président Joko Widodo a déclaré « L'Indonésie avait souffert d'une situation grave lorsque les chocs de la crise économique en 1997. Mais, selon lui, cette époque est une période d'éveiller l'Indonésie à l'Indonésie forte et dynamique. Selon lui, cela a été montré par l'adoption de la démocratie dans le pays, les économies axées sur le marché et la liberté politique, la liberté d'expression et de la presse. Le président Joko Widodo a ajouté qu'actuellement, l'économie indonésienne a développé plus de 300% par rapport à l'économie à la fin de l'année 90. L'Indonésie avait réussi à passer 4 changements de présidence au cours des 20 dernières années. L'Indonésie était devenue l'un des pays avec l'optimisme élevé dans le monde. Le vice-président Yusuf Kalla a ouvert la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 tenue à Jakarta du 1er au 4 mai 2017. Le mercredi 3 mai à Jakarta Convention Center, dans son discours, Yusuf Kalla a dit que l'Indonésie a remercié d'avoir été choisie pour accueillir la Journée mondiale de la liberté de presse. Cela renforce la position et la voix de l'Indonésie concernant la nécessité d'un État pour sauvegarder la liberté de la presse étant responsable pour le progrès de l'État. Au cours des 20 dernières années, les médias indonésiens ont beaucoup de supervision et provision. 98 ans après la réforme, la presse en Indonésie a changé drastiquement, de sorte que l'Indonésie devient un pays où la liberté de la presse est très appréciée. Selon Yusuf Kalla, à l'ère de la démocratie, il y a trois choses qui ont vraiment changé l'Indonésie, à savoir la démocratie, le système d'autonomie et la liberté de la presse.
Memang banyak mempertanyakan bagaimana Indonesia, di mana Indonesia adalah negara.
Beaucoup de questions, comment l'Indonésie en tant qu'un pays à majorité musulmane peut unifier trois choses simultanément, telles que la démocratie, l'autonomie et la liberté de la presse en même temps. Selon Yusuf Kalla, la liberté de la presse en Indonésie est très fondamentale. Elle est protégée par la Constitution des droits de l'homme liée au droit d'exprimer des opinions. En outre, afin de publier en médias, maintenant on n'a pas besoin beaucoup de temps pour obtenir des permis. Par conséquent, actuellement il y a 2000 de la presse écrite, 1100 radios, 394 télévisions nationales et locales et 34 000 médias en ligne. C'est une expression de la liberté de la presse efficace. Néanmoins, la presse a une responsabilité à l'éthique et des règles internes de leurs médias respectifs. Yusuf Kalla a dit, les médias doivent mener à la paix et non de conflit ou d'injustice. Le Conseil de presse est une institution pour protéger les médias d'avoir la liberté d'expression qui obéit au code d'éthique journalistique. C'est ce qu'a déclaré Imam Wahyudi, membre du Conseil de la presse, lors d'une conférence de presse tenue mardi le 2 mai dans une série d'événements de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017 à Jakarta. Imam Wahyudi a expliqué le droit de garantir la protection de la liberté des médias qui est conforme au code d'éthique du journaliste, mais qui est souvent administrativement compliqué, même criminalisé, pour l'intérêt de certaines parties.
Kemudian di sini ada kontennya positif, taat pada.
Ensuite, il y a un contenu positif, obéi au code d'éthique, mais les conditions administratives n'ont pas été remplies. Dans ce contexte, le Conseil de presse ne fait pas d'attention. Le Conseil de la presse tentera de faire la médiation, y compris en communiquant avec la police pour éviter la criminalisation. Il a été déclaré par Imam Wahyudi répondant aux contraintes rencontrées par les médias dans la distribution d'informations qui se produisent souvent dans l'équipe des médias. Ces cas sont devenus l'objet principal du Conseil de la presse pour lutter la liberté de la presse en Indonésie. Imam a également souligné que le devoir du Conseil de la presse est de maintenir la liberté de la presse, de ne pas maintenir la presse, de sorte que enfin, cette liberté puisse être bénéfique pour le public et ne sera pas abusée librement. Les journalistes deviennent la ligne de front dans la production de nouvelles pour les médias. mais ils ont besoin de protection. Concernant cette question, le vice-président de l'Alliance des journalistes au Timor-Leste, Zevonia Vieira, a déclaré mardi à la Indonésie, en marge de la commémoration de la Journée mondiale de la liberté de la presse à Jakarta, que tous les membres de la presse dans le monde devraient maintenir l'unité et la solidarité de sorte que la protection des journalistes peut être améliorée.
Kita semua wartawan di seluruh dunia saling memberi solidaritas terhadap teman-teman kita yang di negara manapun. Mungkin di sini di Indonesia yang masih dapat kerasa.
Les journalistes dans le monde entier donnent la solidarité à nos amis dans tous les pays. Peut-être en Indonésie il y a encore la violence. Nous devons nous unir pour donner la solidarité à eux en criant toujours d'arrêter la violence. Pour tous les pays et tous les dirigeants, ils doivent respecter le travail des journalistes. Seulement avec un article qu'ils pourraient apporter des changements est utile pour les pays et pour le peuple. Zevonia Vieira a également demandé aux médias dans le monde de rester indépendant et peut également maintenir la neutralité qui ne se concentre pas sur les intérêts de l'organisation ou d'un groupe. Sinon, les médias ne sont plus confiants par le public. Elle souhaite que les médias dans le monde puissent contribuer à la paix mondiale via les nouvelles. Commémorant la journée européenne le 9 mai, les représentants de l'Union européenne en Indonésie organisent une série d'activités culturelles pendant un mois dans plusieurs villes en Indonésie. Cela a été annoncé par l'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérang, lors d'une conférence de presse à Jakarta mardi. Ces activités comprennent la course à pied, le festival de cinéma européen, les concerts de piano, les concerts de musique de jazz, les ateliers et les conférences d'affaires. Cette série d'activités reflète la relation étroite entre l'Indonésie et l'Union européenne.
And finally, I just wanted to stress how much these various cultural events fit very well with our overall relations.
Enfin, j'ai souligné que toutes ces activités étaient très compatibles avec les relations entre l'Indonésie et l'Union européenne. Nous avons des relations très fortes et confiantes dans le domaine politique, un dialogue de confiance à tous les niveaux, y compris le niveau du président. Nous avons également évidemment des relations économiques très fortes entre l'Indonésie et l'Europe. L'ambassadeur Vincent Guérang a ajouté que l'investissement de l'Union européenne en Indonésie avait créé un emploi pour 1,1 million de personnes. En outre, dans le domaine de l'éducation, depuis 2004, 1200 étudiants indonésiens ont reçu des bourses d'études en Europe. Pendant ce temps, environ 100 étudiants européens reçoivent chaque année une invitation à étudier en Indonésie. Cette année, le 3 mai, l'Indonésie a accueilli la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse 2017. Comme les années précédentes, l'une des activités dans la Journée mondiale de la liberté de presse est la cérémonie de remise du prix mondial de la liberté de la presse d'UNESCO ou Guillermo Cano. C'est le prix pour les journalistes qui continuent de lutter pour la liberté d'expression de la presse. La remise du prix d'UNESCO ou Guillermo Cano de la liberté de la presse cette année a eu lieu à Jakarta Convention Center, Senayan, et a été ouverte par le directeur général de l'UNESCO, Iriana Bokova. Dans son discours d'ouverture, elle a déclaré que le prix était le reflet du courage des journalistes de lutter contre la liberté d'expression et la liberté de la presse. Nous, où l'UNESCO a travaillé avec un seul objectif, mettre fin à la violence, assurer la justice, défendre la liberté d'expression et respecter la vérité. Donc, dans cet esprit, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous rendons hommage à quelqu'un avec le courage de toujours lutter pour réaliser la liberté d'expression et la liberté de la presse. Dans son discours, Irina Bokova a également lu une brève biographie d'Awit Isaac, un journaliste suédoise qui a reçu le prix mondial de la liberté de la presse d'UNESCO au Guillermo Cano 2017. Ce prix a été remis à la fille de David Isaac, Bethlehem Isaac, qui représente l'absence de David dans cet événement. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.iv.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine culturel. Et cette fois, nous allons vous présenter l'Eri Boran, le plat typique de Lamongan. Lamongan est une région en province de Java-Est, l'Indonésie. Cette région possède des cuisines variées. L'un d'entre eux est Sego Boran, soit duri de Boran. Duri de Boran n'existe pas aux autres régions. Il a une histoire unique sur Sego Boran, soit duri Boran. Les gens ici croient que seules certaines personnes peuvent faire duri Boran. La capacité à créer le menu Sego Boran est héritée de génération en génération. C'est seulement descendant du vendeur duri Boran qui peut le faire. Par conséquent, d'habitude, les vendeurs duri Boran proviennent d'une ville à Lamongan et ils sont relatifs. Ainsi, la recette duri Boran est la propriété exclusive des villageois. Le riz Boran se compose de riz, condiments, plats et croquant au arachide. L'assaisonnement du riz Boran se compose d'une épice qui a été raffinée et appelée le top. Les plats d'accompagnement offerts par le vendeur sont variés, comme par exemple le poulet, les abats, le poisson, les œufs frits, les œufs salés, le tofu, le tempeh et aussi le poisson sili. Les garnitures typiques du riz Boran sont gimbal empuk ou platuk. Mais le plat d'accompagnement d'origine du riz Boran est le poisson sili, parce que le poisson sili est le poisson de saison. Le vendeur du riz Boran a juste une variété de plats latéraux. Gimbal empuk est fait en farine assaisonnée qui est formé comme des balles de ping-pong, et puis frit, et platuk est fait du riz séché, aromatisé et frit. Le nom platuk est pris à partir du son de la nourriture lors de sa mastication. Platuk, platuk. Il est délicieux et bien sûr très unique. Le nom du riz Boran est dérivé du Boran, un grand panier en bambou tressé à quatre pattes et assez grand, forme où on apporte du riz. Dans la ville Lamongan, ce n'est pas difficile de trouver des vendeurs de riz Boran parce que les vendeurs sont partout. La manière de servir du riz Boran est simple. Les feuilles de bananier doublées avec du papier journal ou du papier ciré et ensuite former un pot conique, et celle-ci est associée à un bâton qui a été coupé en morceaux appelé biting. Le premier placé dans le feuille de bananier est du riz chaud, et ensuite le plat principal comme gimbal empuk, poisson sili, le tofu, le tempeh, et les plats choisis comme le poulet, le poisson chano, une omelette et des autres. Le dernier est le condiment rousse étouffé sur elle. Puis au-dessus du condiment, on ajoute paillet et platuk. Ce prix par portion est seulement 10 000 rupiah. chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Rendez-vous demain avec une autre sujet plus intéressant. Merci à tous et à bientôt.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Chers auditeurs et auditrices de la voix de l'Indonésie, je suis ravi de vous voir dans la rubrique L'Indonésie en couleurs avec moi, Muhammad Suwartono. Dans cette édition, le thème abordé est le gouvernement va nommer 4000 îles et restez toujours avec nous, la voix de l'Indonésie, dans le streaming www.voi.co.id. En tant qu'un pays maritime et un archipel, le gouvernement indonésien continue à organiser les îles dans toute la région et de normaliser les chiffres en détail. Tout au long de 2016, les îles qui ont été contrôlées et vérifiées ont atteint le nombre de plus de 14 572 îles. À propos de cela, le directeur général de l'Organisation des zones maritimes du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Brahmantia Setiamurti Purwadi, a dit que la plupart des îles qui ont été normalisées avec succès venaient des chiffres qui avaient été définis par les Nations Unies il y a 13 466 îles. En outre, il y a une vérification supplémentaire du nombre des îles en 2015 jusqu'à 537 îles et 749 îles en 2016. Selon Brahmantia, avec un nombre total de 14 722 îles, le gouvernement indonésien le disposera à la réunion de l'Organisation des Nations Unies d'experts sur les noms géographiques qui aura lieu à New York, les États-Unis, au août 2017. Ainsi, lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies, plus tard, l'Indonésie obtiendra les dernières données totales. La réunion de l'Organisation des Nations Unies d'experts sur les noms géographiques est une session annuelle tenue dans un groupe d'experts du Conseil économique et social des Nations Unies qui traite de la normalisation des noms géographiques à l'échelle nationale et internationale. Dans une période de 5 ans, on tient une conférence des Nations Unies sur la normalisation des noms géographiques dans le monde. Lors de la session annuelle de 2012, l'Indonésie a signalé un total de 13 466 îles à l'Organisation des Nations Unies et cela a été directement fixé dans cette réunion. Brahmantia a dit que l'enregistrement des îles aux Nations Unies visé à maintenir et à garder la souveraineté de l'État. Ceci a fait pour aucun autre État reconnaisse les îles. L'Indonésie compte environ 4000 îles sans nom qui ont réellement le potentiel d'être développées comme des lieux touristiques. Par conséquent, le gouvernement va accélérer la nomination de ces îles en y assignant le ministère des Affaires maritimes et de la pêche et le ministère de l'économie maritime. Cependant, le ministère de l'Intérieur Kumolo a dit Jusqu'à présent, le nombre des îles qui ont été données au nouveau nom a atteint 40%. Selon lui, il avait envoyé la lettre à la tête de la région, comme les régions, les maires et les gouverneurs, de fournir immédiatement le nom de ces îles depuis l'année dernière. Le gouvernement vise à accélérer le processus avec la coopération du ministère des Affaires maritimes et de la pêche et le ministère de l'économie maritime. Au minimum, ces îles ont un port dont leurs frontières seraient claires. Le ministre Cahyokumolo espère que ces îles seraient nommées par le nom indonésien et non étranger. Chers juridiques auditeurs de la voix de l'Indonésie, c'était l'Indonésie en couleur. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Chers fidèles amis de la Voix d'Indonésie des quatre coins du monde, bonsoir. Voici le magazine musical, un programme qui présente les musiques pop et traditionnelles de l'Indonésie. Comme d'habitude, nous commençons aujourd'hui le magazine musical. Pour l'édition ce soir, un chanteur qui est connu à l'ère 80 à 90, Bram Moussas. Pour ouvrir notre rencontre, voici Bram Moussas et Diana Manusama avec sa chanson intitulée Kidung. Bonne écoute. Serviteur, c'était la chanson de Bram Moussas et Diane Manusama intitulée Kidung. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voi.ca.id et nous vous invitons également à rejoindre la Voix d'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voiindonesia. Serviteur, à l'ère de 80 jusqu'à 90, la plupart des poèmes des chansons pop indonésiennes comme la chanson Kidung touchent vraiment le cœur et pas facile à perdre de la mémoire. Surtout pour ceux qui sont amoureux ou tombés amoureux. Bon, chers auditeurs, voici la chanson suivante de Bram intitulée Honnête. Bonne écoute.
Berdua selamanya.
Serviteur, jusqu'à présent, les sanctions sont connues aux années 80 à 90 sont encore stockées dans le mémoire parce que les notes et les paroles de la sanction à ce moment-là est conforme à la station du cœur. Toucher le cœur n'est pas facile à oublier. Bon, serviteur, avant de terminer notre programme, voici la dernière chanson de Brahms intitulée Keedanan. Bonne écoute et à bientôt. C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.